Parlons d'un malware sur iPhone.
Eh merde, vite, par la fenêtre.
Et avant tout, on rappellera qu'il y a différents types de malware. Ceux qui volent par exemple vos informations bancaires, ceux qui utilisent vos comptes type réseaux sociaux pour envoyer du spam, et les cryptolockers qui exigent le paiement d'une rançon. Là, on est dans du bien moins spectaculaire, mais aux effets nettement plus dévastateurs. Oui, c'est possible. Et sur le malware dont je vais parler, l'attaque pour l'installer est tellement sophistiquée qu'il a demandé un investissement assez conséquent pour sa conception. On peut donc dire que ce n'est pas le malware que vous trouverez forcément dans votre smartphone au détour d'un site douteux, mais de toute évidence d'un outil de pénétration industrielle de qualité militaire qui utilise une combinaison assez inédite de bugs dans le kernel iOS, dans le rendu des textes sur Mac et iPhone, dans le navigateur web Safari, dans le JavaScript d'Apple et même dans le CPU System on a Chip spécifique aux iPhone d'Apple. Ça vous semble tiré par les cheveux comme un scénario de James Bond ? Alors on va donner à sa découverte un nom digne d'un film de James Bond. Opération Triangulation. Nous parlons ici d'une attaque qui utilise des failles non encore divulguées, non encore connues par des développeurs légitimes et donc non encore bouchées, ce que l'on appelle un ZDE, Zero Day Exploit. En général, ces failles sont découvertes par des équipes de hackers extrêmement aguerris qui mènent un réel travail de recherche et développement. C'est un travail long et fastidieux qui demande du temps et de l'expertise. Et il y a un marché pour ça. Une faille 0D, nouvellement découverte, se revend entre des dizaines de milliers d'euros jusqu'à des millions en fonction de sa criticité, de la sécurité de la plateforme cible et de sa popularité. Par exemple, le groupe russe Opération Zero annonce pouvoir mettre jusqu'à 2,5 millions de dollars pour un seul 0D exploit sur iPhone qui permettra de lancer un script avec des droits privilégiés. Oui, j'ai vérifié la mise à prix sur le site. Oui, je suis assez couillon pour l'avoir fait. À ce prix-là, l'exploit ne doit pas demander d'interaction par l'utilisateur légitime, ni montrer la moindre modification de comportement perceptible. Pour ce malware dont on parle dans Opération Triangulation, on en a cumulé plusieurs. Qui peut se permettre d'investir plusieurs dizaines de millions d'euros dans un tel logiciel ? En général, ce ne sont pas les groupes mafieux, mais plutôt les industriels de la surveillance, la police ou l'armée de certains États. Ces entités qui ont des existences légales se retrouvent dans des salons très officiels pour signer des contrats de licence. On ne lit pas le terme « logiciel espion », mais « implant ». Et évidemment, un tel outil extrêmement précieux ne reste fonctionnel que tant que les failles sur lesquelles il repose passent inaperçues. Donc on ne va pas s'en servir à tout bout de champ, mais on va fortement limiter ses cibles. En général, pas plus d'un millier de personnes pour ce type d'intrusion. Donc si vous êtes victime de ce type d'attaque, c'est que vous êtes une personne qui intéresse. You are being watched. Et croyez-moi, cela veut dire que vous êtes un opposant à une dictature ou un industriel ultra important. Revenons sur ce malware. Pour commencer, les appareils cibles, les iPhones. Les smartphones d'Apple ont une réputation de sécurité. À mon avis, cette réputation est un petit peu exagérée, car la sécurité en question est plus pour protéger le business model d'Apple que la vie privée de ses utilisateurs. Exemple tout récent. Les autorités de Pékin ont reconnu exploiter une faille dans AirDrop depuis 5 ans. AirDrop est une fonctionnalité qui permet de partager via un réseau Wi-Fi théoriquement anonymisé un chat texte ou des documents. Donc c'est une fonction qui est très utilisée par les opposants à Hong Kong ou dans la province du Ouïghour. Je dis théoriquement puisqu'une faille divulguée publiquement depuis 5 ans montre qu'on peut identifier quel iPhone, donc quelle personne, met à disposition ces documents. 5 ans qu'Apple est au courant de cette faille pourrait facilement la combler, mais ils ne le font pas. Cela montre qu'ils se soucient assez peu des opposants politiques dans certaines dictatures. Par contre, strictement hors de question de permettre de détourner la bibliothèque de DRM, d'installer un autre magasin d'app que celui d'Apple, ou même un vrai navigateur web autre que Safari. Là, à la moindre faille, Apple patch dans la semaine. Priorité, priorité. Ensuite, il faut parler des personnes qui ont été ciblées, et là où a été découverte cette attaque. Kaspersky, l'éditeur d'antivirus basé en Russie, une des solutions antivirales des plus utilisées dans le monde. Que les principaux virus soient testés sur les antivirus est une évidence depuis une vingtaine d'années. Ça ne sert à rien d'envoyer votre belle saloperie si elle n'arrive pas à avoir une réelle viralité. Mais là, on l'a dit, moins ces failles sont exploitées, plus elles restent utilisables longtemps. Tenter d'infecter des ordinateurs ou des smartphones de spécialistes en sécurité, c'est risquer d'être repéré, et donc de se faire choper et de perdre un outil qui vous a coûté plusieurs dizaines de millions de dollars. C'est exactement ce qui s'est passé via des analyses de trafic sortant Heuristic. Bam! Donc, fin 2023, a lieu à Hambourg l'annuel CCC, le Chaos Communication Congress, le plus grand événement de hacking d'Europe, avec des conférences tout aussi passionnantes les unes que les autres. Et dans le programme, Kaspersky apparaît au planning avec une conférence titrée « Opération Triangulation ». Plusieurs communiqués de presse de la part de Kaspersky, d'Apple et d'organisations de protection de la vie privée parlaient de failles importantes et sophistiquées depuis un semestre, donc inutile de vous dire que la salle était archi pleine. Durant cette conférence disponible en vidéo, trois ingénieurs de Kaspersky, Octoxor, Kusharin et BZVR ont détaillé leur opération de triangulation ou comment ils ont découvert, démonté, analysé et fait patcher par Apple l'attaque la plus sophistiquée à ce jour sur iPhone, clairement ciblée contre un constructeur mondialement connu d'antivirus. Ça dure une heure, c'est hyper technique et c'est une succession de claques à chaque découverte de cette suite logicielle malveillante d'une qualité militaire. Trois hackers qui ont passé 6 mois à décortiquer l'un des outils d'attaque les plus complexes sur une plateforme que vous pouvez croire sécurisée et où on découvre qu'Apple a fait des gaffes monumentales de développement, eh ben vous avez une idée de l'histoire. Et tout commence par une alerte d'un proxy des bureaux de Kaspersky qui signale un trafic suspect vers un site web bizarroïde. Déjà, il leur a fallu comprendre si le fait que le site web ne réponde pas de la même manière selon comment il était appelé est normal. Ensuite, trouver quel iPhone générait ce trafic incongru, pour déterminer s'il s'agit bien d'un logiciel malveillant. L'analyser, trouver comment duper ce malware pour qu'il s'exécute dans un environnement isolé, attraper des bouts de code, et enfin comprendre ce qu'il fait exactement, car on tombe dans des fonctions système jamais documentées. Oui, la chasse au malware est un jeu de patience, d'intrigue, d'appaux et de faux-semblants, où toute l'action se joue à petits pas et à très grande suée. C'est comme le déminage, courir dans un champ miné n'est pas la meilleure solution. Et voici comment ce malware arrive à infecter un iPhone. L'infection commence par un e-message qui comporte un document PDF qui joue le rôle ingrat de cheval de Troie. Dans ce PDF, vous avez une police de caractère au format TTF, TrueType Font. Cette police comporte une extension propre à Apple, créée en 1990 et très peu documentée, qui de mémoire servait à ajuster le rendu de courbe sur certains écrans. De là, l'interpréteur TTF permet de joindre l'interpréteur JavaScript de WebKit, le moteur de rendu web. Par l'abus de ce JavaScript propre à Safari, et là Apple aurait mieux fait de ne plus bloquer les autres navigateurs, le cheval de Troie arrive à profiter d'une implémentation de sécurité dans le kernel système qui aurait mieux fait d'être audité par des équipes externes à Apple plutôt qu'avoir son code source caché. Et de là, le code malveillant joue dans des adresses mémoire bizarres non documenté de la puce System on a Chip Bionic A12, A12 jusqu'au A16, documenté nulle part, mais qu'on retrouve aussi sur M1 et M2 des Mac. Pour accéder au reste du matériel et notamment abuser la partie du chipset de l'iPhone qui sert théoriquement à bloquer les programmes non Apple. Ça, c'est uniquement pour le chargement du malware. Après, il y a la charge active. Oui, l'exécutable est assez énorme, hein. Mais déjà imaginez, rien que la faille TTF joue sur un segment réservé par Apple dans la police de caractère, réservé donc jamais décrite, qui est exécuté par une portion de code jamais divulguée depuis 1990 et probablement mal maintenue. Si ces deux informations avaient été publiques et détaillées, elles auraient été auditées de très longue date et des bugs auraient été évités. Donc la sécurité des produits Apple ne vise pas à protéger le client, mais en priorité la propriété intellectuelle d'Apple. Comme je l'ai dit, la sophistication de ce genre d'attaque ne cible pas n'importe qui. Kaspersky est un éditeur d'antivirus basé en Russie, ce qui en fait une cible potentielle aussi bien d'acteurs occidentaux que de leur propre pays et des groupes mafieux sévissant dans la délinquance informatique. Être employé chez eux vous garantit de ne jamais manquer de menaces sur votre personne. Revenons au malware. Une fois le cheval de Troie ayant chargé l'implant logiciel actif, le malware va espionner discrètement de différentes manières. Par exemple, il va activer le micro. Mais attention, uniquement quand l'écran de l'iPhone est éteint. Bah oui, car Apple a récemment eu l'idée intelligente de signaler par une notification visuelle quand le micro du smartphone est actif. Sauf que si l'écran est éteint, bah c'est ni vu ni connu. Vous imaginez les potentialités d'un tel agent dormant sur l'iPhone de Thierry Breton quand il va décider de sanctions contre les géants économiques, ou sur celui de Volodymyr Zelensky quand il participe à une réunion de son état-major. Oui, la guerre numérique est là, et le moindre maillon faible peut faire des ravages. Le niveau des exploits, le nombre de failles impliquées et le fait que certaines semblent dues à des fonctions de débugage mises en place dans le dos d'Apple et jamais retirées par un sous-traitant, c'est époustouflant. Et donc la recherche, le temps et les moyens mis pour arriver à des exploits utilisables via ces failles. On parle de boîtes militaires qui vendent des kits d'effraction, et ces acteurs malicieux ont visiblement mis tellement de contre-mesures de détection pour vérifier que leurs attaques tombent bien sur vrais iPhones qu'évidemment, la tâche pour les débusquer en action est encore plus ardue. C'est assez fou. La partie active utilise la description et le tagging de photos par machine learning inclus récemment dans iOS pour déterminer quelles photos sont intéressantes à exfiltrer. c'est le premier usage malveillant des outils de tagging proposés par Apple et Android afin de vous y retrouver dans votre immense stock de photos. Les types qui ont conçu cette suite logicielle malveillante sont des furieux, des génies du mal, des macophiles, c'est dire. On vous renvoie sur la conférence Opération et Triangulation. Et pour ceux qui n'aiment pas le format, ceux qui le trouvent trop technique ou sont trop pressés pour y consacrer une heure, on cite la conclusion de ces trois auteurs.
Point 1. Collectez et vérifiez les journaux de trafic réseau aussi bien chez vous qu'à votre bureau. Point 2. La sécurité par l'obscurité ne marche pas. Point 3. Les malwares en sauront bientôt beaucoup sur vous en très peu de temps grâce au machine learning dans votre smartphone.
Un point à noter qui n'est abordé que dans la partie questions du public de la conférence, l'exploit n'est pas persistant. Vous ne trouverez pas le malware dans le système de fichiers de votre iPhone puisqu'il ne réside qu'en RAM. Ou alors vous aurez des traces tellement subtiles qu'il faut savoir ce que l'on cherche. Mais du coup, le malware ne survit pas à un reboot du smartphone. C'est pour ça que depuis un an, il nous est recommandé de régulièrement rebooter son smartphone, aussi bien sous iOS que sous Android. Ce qui vous protégera jusqu'à la prochaine tentative par le même virus. Et si quelqu'un a payé suffisamment cher pour vous attaquer avec un tel soft, la tentative suivante arrivera très très vite. Concernant Opération Triangulation, les 4 failles directement identifiées ont été rebouchées entre juillet et septembre dernier. Je vous épargne la lecture de la référence CVE. Les liens vers mitre.org sont disponibles sur la page web de l'émission. Mais qui a découvert ces failles et les a revendues? On ne sait pas qui. Qui a construit ce malware? On ne sait pas qui. Qui s'en sert? On ne sait pas qui. Mais outre le rebouchage des trous de sécurité, il est important de continuellement dénoncer ces armes numériques extrêmement intrusives pour justement rendre leurs usages aussi immoraux et criminels que des mines antipersonnelles. Car il ne faut surtout pas qu'elles se banalisent justement vers des acteurs mafieux beaucoup plus communs. La vidéo captation de la conférence est disponible avec une piste audio en français issue de la traduction simultanée en direct. Chapeau bas à la traductrice d'ailleurs. La présentation est passionnante, la documentation associée aussi. Et croyez-moi qu'elle devrait rendre beaucoup de personnes nettement plus humbles.